bah, c'était pour vous signaler une information dont tout le monde semble se fiche absolument. C'est que le musicien Jimmy Giuffre, qui était un des plus grands créateurs de jazz du XXe siècle, je crois, est décédé en fin de semaine dernière. Bon, l'information, on la trouve nulle part. Alors, bon, bah, on la trouvera là-bas si j'y suis, si vous passez ce message. Je vous invite vraiment, vraiment, vraiment à écouter Jimmy Giuffre. C'est un monde, c'est un univers. Enfin, on dit que c'est du jazz, mais je crois que c'est encore autre chose. Et voilà, et on aurait pu lui rendre hommage. Voilà.
Bonjour, Daniel Mermet et l'équipe de là-bas si j'y suis. Nous, lycéens de Guéret, en Creuse, voulons adresser un message à notre cher président. Monsieur Sarkozy, contrairement à ce que vous semblez penser, nous ne sommes pas inquiets parce que nous sommes jeunes, mais parce que vos réformes nous inquiètent. Ainsi, cher et surtout estimé président, même du fin fond de la France, en Creuse, à Guéret pour être précis, les lycéens réagissent et manifestent contre la politique du gouvernement. Hélas pour vous, nous sommes aussi de futurs citoyens. C'est pourquoi nous nous mobilisons de concert avec les hospitaliers de Guéret, mécontents, mais surtout inquiets de vos décisions. Ainsi, en Creuse, salariés et lycéens se rejoignent pour la défense des services publics. Un des temps forts sera le mardi 29 avril à Guéret, où nous nous rejoindrons tous et exercerons notre droit à évaluer, pour reprendre votre terme, la politique du gouvernement en matière de services publics. Les actions sont prévues tout au long de la journée, manifs, sit-in, pique-niques, concerts, entre hospitaliers, parents, professeurs, retraités, salariés et lycéens de tout le département. Cher Monsieur le Président, vous qui nous comprenez si bien, qui comprenez si bien notre inquiétude, n'hésitez pas à venir manifester avec nous. Un grand merci à cette émission, Sarah.
Monsieur Sarkozy a déclaré jeudi soir qu'il avait augmenté de 5% l'allocation adulte handicapé. C'est archi faux et franchement, c'est très très limite. La seule augmentation, c'est celle de janvier de 1,1%, soit 6 euros. Ce qui, à l'époque, avait été plutôt pris comme un camouflet. L'allocation adulte handicapé est actuellement de 628 euros et nous sommes donc en dessous du seuil de pauvreté. Après une manifestation sans précédent fin mars, c'est une façon comme une autre de plomber nos revendications. C'est franchement honteux de mentir aussi effrontément sur un sujet aussi sensible. Nous devons assumer notre handicap ou notre maladie invalidante, ce qui au quotidien est déjà une épreuve. C'est assez pour un humain de vivre sans handicap. Ne rajoutons pas la coupure sociale. Souche.
Oui, salut Christophe. Salut à tous les AMG de Haute-Savoie. Ouverture d'un nouveau repère à Annecy le mercredi 7 mai à 19h au bar Le Dersim dans la banlieue d'Annecy en face de l'usine SNR de Métay. Venez nombreux, ensemble, autour d'un verre, nous rallumerons la flamme de l'espoir et de l'humanisme qui n'a jamais eu besoin de la protection de la police. Mercredi 7 mai à 19h, comptez ça sur vos tablettes au Dersim à Métay, qu'on se le dise et répète.
Oui, bonjour tout le monde, c'est Erwan de Brest. Eh bien, écoute, j'avais envie de te poser une question jeudi soir après la première diffusion de la première partie de la caisse noire de l'IUMM. Et là, on est dimanche, donc je profite un peu de temps pour t'appeler, pour te poser cette question-là, et ainsi qu'à tous les auditeurs de là-bas si j'y suis, et même de France Inter. C'est, est-ce que au moins une fois dans ta vie, Daniel, ou toi, Christophe, ou toi, Adèle, est-ce qu'une fois dans votre vie, vous êtes déjà tombé dans l'armoire?
En tout cas, c'est arrivé à Madame Laurence Parisot de tomber d'une armoire lorsqu'elle a découvert ce qui se passait du côté de l'UIMM. Ça a été une très grande surprise pour elle. Elle a ouvert des grands yeux ronds, scandalisés, offusqués, et elle a décidé de tout changer, de tourner cette page, n'en parlons plus maintenant, transparence, etc., etc. Ben oui, mais sauf que, eh bien, oui, mais d'accord, très bien, très bonne décision, mais enfin, il faudrait quand même savoir ce qui s'est passé. On a commencé à s'en soucier, pour ce qui nous concerne depuis jeudi, que s'est-il passé depuis 107 ans dans cette union des industries et des métiers de la métallurgie. Exactement 107 ans, puisque l'UIMM a été créé en 1901. Donc ça fait exactement 107 ans. Alors, évidemment, On se souvient de la fameuse déclaration de Denis Gauthier-Sauvagnac, le porte-parole et responsable de l'UIMM, lorsqu'il a employé ce terme de « fluidifier les rapports sociaux ». On a tout de suite conclu qu'il s'agissait de financer les syndicats, de graisser des pattes, etc. Alors, c'est notre sujet du jour. On vous l'avait promis vendredi, on a enquêté avec Renaud Lambert pour savoir si effectivement il y a eu, au cours de ces années, graissage de pattes de syndicats, achat de syndicalistes, etc. C'est notre sujet du jour, c'est assez chaud, c'est assez brûlant. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la base, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Bonjour, c'est Marie et Francis du Kremlin-Bicêtre. Nous sommes juste à côté des locaux de la CENI. Qui est actuellement occupé par des travailleurs grévistes sans papier. Ils sont à peu près une quarantaine qui sont dans les locaux là du Kremlin du Sèvre, et ils ont besoin du soutien de tout le monde, financier et moral surtout. Donc venez passer les voir. C'est une lutte qui j'espère va se disséminer un petit peu partout en France. Voilà un grand message d'espoir, j'espère, pour beaucoup de gens. À bientôt.
Oui, bonjour Daniel et bonjour à toute l'équipe de là-bas si j'y suis. Voilà, nous, dans le département de la Vienne, on est en colère. On est en colère parce que l'administration veut fermer 30 classes, dont 2 écoles à classe unique. Pourquoi ? Enfin, évidemment, on le sait, parce qu'il faut dégager un fonctionnaire sur 2. Alors c'est dans l'enseignement qu'on tranche. Et tant pis si les classes sont surchargées, puisqu'on va arriver à plus de 33 enfants par classe après les fermetures. Tant pis si les coûts et les temps de transport sont multipliés, puisqu'on peut arriver à 3/4 d'heure matin et soir pour des enfants de 3 ans. Et puis tant pis si les emplois périphériques sont supprimés. Et ça, nous qui vivons dans nos petits villages, on sait à quel point ils sont importants, les emplois périphériques. Pour nous, les parents, les enseignants, les élus, ce qui compte, c'est l'enfant. C'est pas la calculatrice de l'administration qui nous parle de 27 enfants, 75 par classe. Nous, en tant que parents et enseignants, on n'est pas habitués à couper des enfants en 4. Alors nos villages, sans école, ils vont vers la mort. Et puis on voit nos ministres qui paradent et puis qui financent toujours plus le privé. Et on dit non. On dit non aux usines à gosses. Et puis on dit oui à l'école de proximité, mais une école qui, chaque année, ne va pas être remise en question. On a monté une coordination de parents, d'élus et d'enseignants, et on est tous ensemble, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on soit tous ensemble pour ça. Si vous voulez, vous pouvez nous soutenir, vous pouvez nous rejoindre, nous on a besoin de vous. Vous pouvez signer une pétition en tapant « Coordination des écoles rurales de la Vienne » dans un moteur de recherche.
Un secret de famille, je ne sais pas les choses. Je ne sais pas les choses. Inconsciemment, il y avait peut-être...
Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas si j'y suis, avec Renaud Lambert, fluidifions.
Flight number 2, arriving from New York.
Je crois qu'il est temps que l'UIMM passe à autre chose.
On a assisté dans l'affaire de l'UIMM à un vrai blocage judiciaire.
À quoi servait cet argent ?
Fluidifier les relations sociales.
Valise de billets pour acheter, selon lui, la paix sociale.
L'argent noir est nécessairement quelque chose qui est non démocratique, qui porte atteinte à la démocratie.
C'est aussi quelque chose que probablement beaucoup savaient inconsciemment.
Le pouvoir politique a délibérément choisi d'enterrer le dossier.
L'enquête continue, mais difficilement, lentement, d'un pas de sénateur, pourrait-on dire, rien de presse, on verra, on sent bien que, c'est pas l'enthousiasme, si bien que, l'opinion attendra. On suivra mollement ce feuilleton, et pourtant il s'agit d'un des scandales les plus violents qui en dit le plus sur la vie sociale tout au cours du XXe siècle et aujourd'hui toujours, car vous connaissez la fameuse devise « Tout changer pour que rien ne change ». Je pense que c'est le principe de Madame Parisot. Elle l'a pas inventé, c'est très ancien et ça a une certaine efficacité que viendra peut-être enrayer l'enquête en cours, les instructions en cours, et comme on vient de l'entendre très judicieusement, il s'agit là évidemment d'une atteinte violente et profonde à la démocratie. Alors évidemment, ce qui a été suggéré aussitôt le scandale révélé par Monsieur Denis Gauthier-Sauvagnac, ce qui a été suggéré, c'est qu'il s'agissait de financement, de fluidification des rapports sociaux, donc on a compris financement des syndicats. J'ai procédé comme mes prédécesseurs, a-t-il déclaré, à des remises de fonds représentant des organismes participant à la vie sociale de notre pays. C'est donc clair quels sont les organismes qui participent à la vie sociale du pays, sinon évidemment les syndicats. Quand on dit syndicats, on ne dit rien de précis. Il y a des syndicats de patrons, il y a des syndicats de salariés, et on va voir si on l'avait jamais oublié qu'il y a parmi les syndicats de salariés, des salariés qui sont du côté des patrons et d'autres qui sont du côté des salariés. C'est une vieille histoire dans laquelle l'UIMM joue depuis très longtemps un rôle très actif en finançant et en soutenant ceux qu'on appelle les syndicats jaunes, c'est-à-dire les syndicats qui patronaux, qui défendent les intérêts des patrons. C'est une vieille histoire, mais on l'oublie évidemment. Il y a une faible syndicalisation en France, 8% des salariés seulement sont syndiqués, et pourtant les syndicats jouent leur rôle dans la vie sociale. Représentativité des syndicats, financement des syndicats, c'est une vieille histoire, et on va voir que évidemment, elle est réveillée, elle est mise au premier plan dans cette affaire, et on va voir comment on suppose et comment on amalgame. Cette histoire est loin d'être élucidée, cette longue histoire, cette caisse noire n'est pas éclairée pour l'instant. Nous allons y contribuer quelque peu d'ici à 16h. C'est là-bas si j'y suis.
Embrasser totalement l'idée d'une entreprise ouverte.
Je vais vous dire, les gars, ce qu'il faut faire pour faire augmenter vos salaires. D'abord, parler avec les potes et faire une section syndicale. Tous solidaires, ce sera pas long pour faire la nique au patron. Moins d'heures de boulot, meilleures conditions de travail, les congés payés, les gosses au bord de la mer. Mettons que votre boulot soit l'enfer, avec un salaire de misère. Le patron se met à gueuler, feignant pas de rallonge, enfoiré. Mais regardant par la fenêtre, il voit des milliers de gars unis. Salaud, affameur, négrier, il bat sa femme, on peut le parier. Les gars le plus dur qui reste à faire, tout sera bon pour vous foutre en l'air. La police, la garde nationale, c'est un crime, une carte syndicale. Vos meetings seront perturbés, on matraquera tous ceux qui bougent. Sale bande de rouges, anti-américains, espions japonais, saboteurs de la défense nationale. Mais chez Ford, ce qu'ils ont compris, et chez Renault, ce qu'ils ont compris, et chez Lip, ce qu'ils ont compris, et chez Rodia Seta aussi, aux joints français, ce qu'ils ont compris, un peu partout, ce qu'on a compris. Si on se laisse pas faire par les fachos, si on se laisse pas faire par les provocateurs, si on se laisse pas faire par les milices, si on se laisse pas faire par les jaunes, par les flics, par le gouvernement, si on se laisse pas baiser par les patrons, eh bien les gars, on gagnera. Enfin, ce que je vous en dis, prenez-le comme vous voulez, mais faites-le.
Alors donc, je suis professeure de français dans l'éducation nationale depuis 38 ans. Et donc en 1996, je vois un jour dans la salle des profs un papier nous invitant à un séminaire. Et la première chose qui m'a frappée, c'était que dans l'entête du papier était indiqué que c'était à l'initiative du rectorat de Caen, de lui-même, que je ne connaissais pas à l'époque, et aussi de l'enseignement catholique. Et comme je suis très curieuse, bon, j'ai regardé le thème du séminaire, c'était, il s'appelait « Éduquer pour s'orienter au XXIe siècle ». Et comme c'était pendant les vacances de la Toussaint, pendant 4 jours, du 27 au 31 octobre donc 1996, je me suis dit « Allons voir ». Donc je suis allée un peu par curiosité. Alors donc, et puis donc, bah, il y avait des grands chefs d'entreprise. Alors moi tout de suite, je notais des noms parce que ça faisait vraiment grand patronat du XIXe siècle, Monsieur De Calan, De Virville.
Monsieur De Calan, voilà. C'est pas un inconnu. Monsieur De Calan, c'est délégué, c'était le délégué général adjoint de l'UMM à l'époque.
Oui, et qui est mis en examen si mes informations sont bonnes à l'heure
actuelle.
Voilà. Donc je me suis inscrite à ce séminaire et je suis arrivée donc au Mont-Saint-Michel. On était dans un luxe absolument pharaonique, comme on dit aujourd'hui, hein, parce que nous étions 200 participants, tous logés dans des hôtels de luxe. Moi, j'ai regardé le prix des chambres, c'était de 200 euros la nuit, hein, donc il y avait 4 nuits. Nous étions invités midi et soir à manger dans des restaurants gastronomiques qui sont très connus, les terrasses de la mer Poulard, avec des menus extrêmement raffinés, des vins fins, etc.
Ouais, la mer Poulard, elle est surtout connue pour ses omelettes, ça coûte pas très cher les omelettes quand même.
Oui, a priori, mais c'est pas seulement ça, hein. C'est aussi des repas... extrêmement pantagruélique, même à moi à la fin je pouvais plus manger tellement je me dis mais c'est pas possible d'avoir ce luxe et puis c'était trop quoi comme on dit aujourd'hui et donc déjà bon moi ça m'a mis la puce à l'oreille, je dis quand on veut séduire les gens mais en même temps c'est une manière de séduire en prenant les gens un peu par le ventre.
Ce que vous nous dites c'est que l'académie de Caen qui était co-organisateur avait pas forcément l'argent pour traiter ses convives de cette façon-là quoi.
Voilà, parce que si vous voulez, moi, en 38 ans de carrière, bon, j'ai connu des stages et des séminaires, mais on a le droit au petit café et au gâteau sec, quoi. Et là, on était dans une gabegie insensée. Or, j'ai appris depuis, petite parenthèse, qu'il y avait déjà eu ce genre de séminaire en 93 et 94 à Saint-Malo, et je suppose qu'il y en a eu dans bien d'autres académies, rien que pour exercer ce lobbying sur l'éducation nationale.
Voilà, exercer un lobbying sur l'éducation nationale, c'est une autre facette du lobbying de l'UIMM, une autre piste pour savoir et bien répondre à la question où est allé l'argent de cette caisse noire. Et bien voilà, une utilisation... comment convaincre ces Français archaïques de se moderniser, de se réformer. La réforme, c'est très important. Eh bien, par la pédagogie, en faisant du lobby auprès des pédagogues, c'est tout à fait logique. Et c'est Georgette Amonou, une AMG, une auditrice modeste et géniale, qui fut prof de français, qui nous a donné ses précisions. Et ce témoignage.
Alors, en vous séduisant les papilles et en vous faisant dormir comme ça dans des draps de soie dans les grands hôtels du Mont-Saint-Michel, qu'est-ce qu'on cherchait à vous faire passer comme message?
Pour moi, c'était très clair. Moi, ce que j'appelais à l'époque déjà le dogme de l'idéologie libérale, quoi, avec toute sa brutalité et son cynisme. Hein. Par exemple, Monsieur De Calan disait, c'est évident, il faudra accepter l'idée, vous, professeurs, et faire accepter l'idée à vos élèves, qu'il faudra travailler jusqu'à 70 ans, qu'il n'y aura pas de travail pour tout le monde et donc il faudra apprendre aux jeunes qu'il y en aura un tiers d'entre eux qui resteront sur le bord de la route.
Ça, c'est des citations à chaque fois.
Hein. Voilà. Qu'en compensation, il faudra apprendre aux jeunes qui auront réussi à s'engager dans des associations caritatives, quand même, pour se donner un petit supplément d'âme. Bon, bah, je peux citer, par exemple, ce que dit Monsieur Dominique De Calan dans une de ses interventions, critiquant l'école, évidemment. Il dit « ça ne sert à rien de donner des diplômes à tout le monde ». Et là, je cite « le diplôme sert aux héritiers et aux salariés, pas aux entrepreneurs ». En poussant les jeunes à obtenir des diplômes, on renonce à faire d'eux des conquérants. Hein ? Et quant à Monsieur de Navassel, Hein, il dit « Une entreprise n'est que peu de choses sans les hommes et les femmes qui la composent. Sa survie dépend dans bien des cas de la capacité qu'ont les hommes et les femmes de s'adapter aux exigences des marchés de demain. » Donc, clairement, pour moi, ce qu'il nous demandait, c'est justement, dès l'école et même dès le collège, hein, former des bons esprits, selon eux, à obéir et à se couler dans le moule de l'entreprise.
Bon, alors, Georgette, est-ce que ça a marché? Est-ce que vous êtes rentrée dans le jeu?
Bah, moi, pas du tout. Moi, j'étais, mais peut-être parmi les rares, on était peut-être 4 ou 5 sur 200.
Donc, en conclusion, Georgette, vous diriez que même s'il y avait 3 ou 4 personnes dont vous faisiez partie qui gardaient un petit peu un regard critique sur ce qui se passait, de manière générale, l'UMM n'avait pas perdu son argent en organisant ce séminaire.
Moi, je dis qu'on a, là, on a, ils avaient gagné un vaste consensus. Donc, finalement, oui, leur investissement au Mont-Saint-Michel, pour, de leur point de vue, un peu été inutile.
Voilà, donc, une facette du lobbying de l'UIMM avec ce témoignage de cette auditrice que nous remercions. Alors, on a évoqué l'influence de l'UIMM et les manipulations de l'UIMM sur des médias dans le cadre de certaines campagnes au début des années 70, vous vous souvenez, mais plus généralement, y a-t-il influence, manipulation par l'UIMM des médias? On peut, ça s'est vu, par exemple, financer des journalistes à travers des ménages très très bien payés. Vous savez, des ménages, c'est, on se fait payer très très cher pour intervenir. C'est possible. Et alors, évidemment, que des journalistes qui ont été invités dans des conditions pareilles, après, ils sont beaucoup moins critiques. Ça émousse le sens critique. Ou alors des articles très très bien payés. Ou bien des publicités qu'on achète, des pages de publicité qu'on achète dans des revues, des fois des toutes petites revues de rien du tout, mais voilà, etc. C'est tout un tas de moyens de pression. Voyons ce qu'en dit Éric de Couty, journaliste lui-même, ancien du Figaro et aujourd'hui à Marianne, qui est un des plus pointus sur ce dossier et qui est le révélateur de toute cette affaire. Dans un article fameux qu'il a publié dans le Figaro en septembre dernier. Éric de Couty.
Les gens de la métallurgie, du patron de la métallurgie, ont fait savoir, assez habilement, j'ai besoin d'être dans un débat avec un homme politique, mais qui a des liens étroits avec le patron de la métallurgie, qui est Monsieur Languet, qui disait, mais vous savez, des journalistes aussi ont touché. J'en sais rien. En tous les cas, ça se dit que, vous savez, les ménages...
Les ménages, pour expliquer, c'est des journalistes qui vendent leur notoriété.
Voilà, qui, en dehors de leurs heures de travail, vont faire... vont servir la soupe de telle structure, faire des articles, journal d'entreprise, etc., en contrepartie d'une rémunération.
Alors c'est un peu bref, il faut bien le dire. On espère que l'enquête donnera des précisions et des éclairages sur cette possible influence. Et on ne doute pas que nos confrères vont se manifester, témoigner de ce domaine du lobbying de l'UIMM. Alors venons-en à ce qu'on avait promis, c'est oui ou non l'UIMM ont-ils acheté, financé des syndicats, comme le suggère Denis Gauthier-Sauvagnac. Alors, on va commencer par Daniel Fraboulet. Daniel Fraboulet, elle est historienne, spécialiste du monde patronal. On l'a déjà entendu dans ses reportages de jeudi et de vendredi. Elle est l'auteur de « Quand les patrons s'organisent ». C'est sorti aux éditions Septentrion 2008.
L'UMM avait mis sur pied un certain nombre d'organismes pour servir ses adhérents. Parmi ces services, il y a donc la caisse dont je viens de vous parler, d'assurance contre le chômage forcé, mais il y aura d'autres sociétés qui seront mises sur pied, en particulier entre les deux guerres, la lutte, c'était une lutte contre le Parti communiste et contre la CGTU. Et donc le problème pour les patrons, c'était d'avoir dans les entreprises des syndicats ouvriers communistes qui étaient extrêmement contestataires et révolutionnaires. Et donc lui-même a essayé de contrer cela. Et pour contrer cela, il y avait plusieurs possibilités. D'abord, ils ont essayé à un moment donné d'aider plutôt les syndicats chrétiens.
Quand vous dites aider à la mise en place, c'est financer la création.
C'est beaucoup dire, ça se passe pas forcément comme ça. Ça
faciliter la création.
Faciliter, oui, ça veut dire que si ce syndicat avait besoin d'une imprimerie pour un bulletin, il y avait des facilités pour que ce bulletin puisse être fait. Vous voyez, faut pas. Je pense que ça se fait plutôt comme ça, de manière un peu informelle, voilà. Et puis, ils se sont rendus compte que peut-être qu'il serait bien de mettre en place ou d'aider à la mise en place, c'était des syndicats de techniciens, de contremaîtres, pour que le monopole de la représentation des salariés ne soit pas donné aux syndicats ouvriers.
Le dossier Citroën à présent. La grève se poursuit à Aulnay-sous-Bois et à Levallois-Perret. Elle s'est étendue d'ailleurs à Asnières aujourd'hui. Le député communiste, Mme Fraisse-Casalis, a demandé la dissolution des milices patronales.
Je vous demande, monsieur le ministre, les dispositions que le gouvernement entend mettre en œuvre pour obtenir la dissolution des milices patronales, la liberté de vote lors des élections professionnelles et l'ouverture de négociations.
En liaison avec le conflit Citroën, la CGT appelle demain à une journée d'action dans toute la métallurgie. Direction et syndicats ont parlé des futures élections professionnelles. Une réunion qui a été difficile à réaliser, tant est grande l'animosité entre la CGT, qui mène le conflit, et la CSL, c'est-à-dire le syndicat Maison.
TF1, 12 mai 1982.
Les grévistes sont aux portes de l'usine. À l'intérieur, on s'organise et des hélicoptères acheminent des cadres non grévistes, mais aussi des hommes de main, affirme la CGT.
Heureusement qu'il y a d'autres organisations et qui ont d'autres motivations que celles de la CGT, qui n'a pour but que de prolonger son action, qui est à dire celle du Parti communiste, en faisant de la politique, qui ne vise qu'à déstabiliser les entreprises et à créer notamment chez les travailleurs un climat de perpétuel, si vous voulez, de combat.
Tout cela, la CGT le nie et reproche, elle, à la CSL d'être une officine au service des patrons. En 76 déjà, la CFT chassait nos distributeurs de tracts, dit la CGT, qui donne pour preuve ces images tournées par des militants communistes. En 1977 à Reims, un ouvrier gréviste de la CGT avait été tué par un militant CFT. C'est ensuite que la CFT est devenue la CSL.
Vous vous souvenez peut-être dans les années 70 de ce qui s'appelait la CSL, Confédération des syndicats libres, ou la CFT, Confédération française du travail, qui étaient des organisations syndicales,
inspecteur du travail,
disons fascisantes, qu'on appelait jaunes, et qui à Citroën, Talbot, à Poissy, à Peugeot, et dans quantité d'entreprises de la métallurgie, se chargeaient elles-mêmes de faire la chasse aux autres syndicats. C'est-à-dire c'était des groupes de commandos, patronaux, payés, qui agressaient les autres syndicats et qui surtout essayaient de se présenter dès le premier tour en concurrence avec eux pour obtenir les voix et représenter, tenir les comités d'entreprise contre les syndicats de salariés. Eh ben, vous avez toute une explication de ce à quoi servaient, il y a 20, 30 ans et 40 ans, les caisses noires de l'Union des industries métallurgiques de l'époque. Ils payaient ces syndicats commandos, jaunes, fascisants, qui servaient à casser les syndicats de salariés. Pour ça, je suis toujours indigné quand on introduit la confusion dans l'esprit du public en disant ils versaient de l'argent à des syndicats. Ah, peut-être, mais à ceux-là, hein? C'est-à-dire à des syndicats jaunes et patronaux. Et ils voudraient bien pouvoir le faire à nouveau. À des syndicats, comme on dit, non syndiqués, c'est-à-dire, parfois, il y a des syndicats maison. Parfois, vous avez des syndicats entièrement créés par l'employeur pour éviter qu'il y en ait des vrais affiliés à la CGT, CFDT ou FO. Eh bien là, une partie des fonds devait sûrement y aller. Il y a beaucoup à chercher, également dans cette voie.
Encore un petit point de détail.
Voilà qui éclaire l'expression fluidifier les rapports sociaux. Voilà une utilisation en partie bien évidemment, de ces fonds. Alors, syndicat, Confédération française du travail, devenue CSL, Confédération des syndicats libres, et devenue aujourd'hui SIA, syndicat indépendant de l'automobile, parce que, évidemment, cette histoire continue. Visite à PSA, Aulnay-sous-Bois.
La raison pour laquelle on est venu vous voir, c'est parce que, voilà, vous êtes tous les deux salariés de PSA Citroën ici à Aulnay, qu'on avait entendu parler de cette entreprise au moment du conflit du printemps dernier, en 2007. Et que, parce qu'on sait qu'il y a, dans le paysage syndical à Aulnay, il y a une particularité, c'est la grosse force d'un syndicat maison.
Ouais, le SIA, c'est un ex-CSL, ex-CFT, un syndicat maison qui fait 40% des élections.
Alors, vous parlez de CSL, CFT, les auditeurs ne connaissent pas forcément. Brièvement, on pourrait les décrire, ce n'est pas des syndicats qui sont très à gauche, ça.
Non, c'est des syndicats de droite, c'est qu'ils ont tabassé des salariés, ils ont tabassé des ouvriers. Ils sont encore là sous une autre forme, un peu soft, mais ils sont toujours là pour faire le même travail qu'ils ont fait dans le passé, voilà.
Alors, ça veut dire quoi un syndicat maison ?
Un syndicat maison, c'est un syndicat qui signe tous les accords, qui dit jamais rien, qui dit jamais non à la direction. Donc, ils sont vraiment amis. Hein. Donc, je les vois pendant les négociations ou pendant les réunions, donc ils sont vraiment amis. Donc, ils ont encore du chemin à faire ensemble.
Bon, bah, les salariés de PSA Citroën ici à Aulnay sont pas plus bêtes que d'autres. Pourquoi est-ce qu'ils vont aller voter pour des gens qui les défendent pas et qui défendent le patronat ?
Alors, les salariés votent, c'est vrai qu'ils votent à 40% SIA. C'est bien évidemment sous la pression de leur hiérarchie. Ils leur disent, si vous votez à gauche, en tout cas à Sud ou CGT, ils vont finir par fermer l'usine à cause des syndicats de gauche. Juste avant les élections, le SIA distribue des t-shirts, des sacs sur lesquels c'est marqué SIA pour faire passer leur message aux salariés. Voilà.
Voilà plus d'un mois que ces salariés de Peugeot Citroën sont en grève. Une mobilisation aussi longue, le site d'Aulnay-sous-Bois n'en avait pas connu depuis plus de 20 ans et la détermination des grévistes ne faiblit pas. Ils sont près de 400 à suivre cette grève, soit 10% des salariés du site. Leur revendication, une augmentation de salaire de 300 euros, la retraite pour les plus de 55 ans et l'embauche d'une partie des 700 intérimaires du site. Des intérimaires qui, pour certains, ont rejoint les grévistes, ils ne supportent plus leur précarité.
Au printemps dernier, il y a eu un conflit assez important qui a duré 6 semaines, ici, au site d'Aulnay-sous-Bois. Quel est le rôle d'un syndicat comme le SIA dans un conflit comme celui-là ?
Alors, le syndicat maison est là pour casser la grève, pour distribuer des tracts qui dénigrent un peu notre mouvement social, pour expliquer aux gens que la direction ne peut pas lâcher 300 euros parce que c'était la principale revendication des salariés. Donc ils étaient là pour dire aux gens, ça fait beaucoup d'argent et si on continue, l'usine va fermer. Voilà, son rôle c'était celui-là, et essayer aussi de recruter des gens sur les autres sites pour venir travailler en remplacement des grévistes sur Aulnay. Donc c'est ce qu'ils ont fait sur Rennes et Mulhouse.
Mais ça c'est illégal.
C'est complètement illégal, sauf que la SIA le fait pour PSA.
Imaginons une situation où ce soit le SIA qui veuille faire une grève et Sud qui soit contre la grève. Est-ce que vous avez les moyens de faire venir des salariés ici pour travailler ?
On n'a pas les moyens du tout. Hein. Donc on n'a pas les moyens financiers que le SIA a. 0,2% de la masse salariale qui est versée au CE pour faire tourner le CE pendant une année. Donc ça représente 38 000 euros par an, et le SIA donc, a le CE depuis 1984. Donc 38 000 euros par an, ça fait beaucoup d'argent. À cela se rajoute 700 000 euros pour le fonctionnement du CE. Donc c'est énormément d'argent, donc on peut tout faire avec cet argent-là. Voilà. Donc on peut bien sûr acheter les salariés contre la grève, on peut payer aussi des vacances à certains.
Attendez, j'ai du mal à croire qu'on donne 700 000 euros plus encore 38 000 euros à un syndicat sans leur demander de rendre des comptes clairs, précis sur les cafés qu'ils prennent ici et là. Enfin, on est en France quand même, on n'est pas dans une république bananière. Les gens doivent bien expliquer ce qu'ils font avec cet argent.
Ils le font au CE une fois par an, sauf qu'ils ne sont pas clairs. Hein, mais bon, la direction les approuve, donc ça passe. Pour l'instant, ça passe.
Si jamais quelqu'un du syndicat SIA avait envie... De graisser la patte à quelqu'un, par exemple, ou de faciliter une négociation en donnant un chèque à quelqu'un, Vous me dites qu'il pourrait ponctionner sur cette masse-là, c'est quand même important, 700 000 euros. Il pourrait assez facilement tirer de l'argent de ce fonds-là sans qu'on s'en aperçoive, ou en tout cas sans que la direction aille trop gratter, quoi.
Personne ne peut s'en apercevoir, ils le font, je suppose qu'ils le font. Il y a quand même un souci de gestion du CE.
Alors, si on comprend bien tout ce qui vient d'être dit, en effet, l'UIMM finance les syndicats. Mais ces syndicats-là, c'est-à-dire les syndicats qui défendent le patronat, et il semble que ce soit quand même une coutume bien installée. Mais, deux experts, de très grands experts françaises, des intellectuels, comme Jacques Marseille et Jacques Julliard, les deux Jacques, lors d'un chaleureux débat entre eux sur LCI, ne sont pas de cet avis.
On le sait, en gros, quels sont les syndicats qui ont touché le plus de l'UMM. Mais ça fait partie de la grande tradition.
C'est les plus petits. Disons que ce sont les plus petits.
Et les moyens gros, quand même.
Les moyens gros aussi. Il n'y a qu'à voir le ton des déclarations des leaders syndicaux à la suite de ces révélations.
Oui, ça leur plaît pas tellement.
Non. La CGT et la CFDT conservent une certaine décontraction. Les autres syndicats, je les nomme pas, hein, visiblement, sont allés trois.
Il y en a que trois autres, puisque le monopole de la représentativité, donc les gens qui nous regardent vont les découvrir assez facilement.
Alors Jacques Marseille, est-ce que...
Gérard Filoche, on se tourne vers vous pour avoir quand même quelques éclaircissements sur cette question du financement possible, probable, certain, nous disent des gens, de syndicats. On a même entendu Sophie de Menton, dans un débat avec vous, assurer que FO avait reçu énormément d'argent.
Ah bah oui, ça c'est un bon souvenir, Madame de Menton, le 15 novembre 2007, sur RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot et les Grandes Gueules.
Écoute, dis-le lui d'y parler.
Non, tu savais pas.
Est-ce que vous pourriez écouter deux secondes la façon.
Oui.
Je savais, comme tout le monde, que les syndicats étaient financés de façon occulte par le patronat. Je savais que le siège de FO avait été payé par le patronat. Je ne savais ni quand, ni comment, ni pourquoi, ni comment ça se passait. Et je pense que ça a été fait de façon entre deux, trois personnes.
Eh bien, elle a eu sur le dos, à juste titre, la Confédération Force Ouvrière qui a menacé de porter plainte en diffamation. Ils ont discuté pendant 4 mois et c'est Madame de Menton qui s'est excusée. Elle a récemment dit, publiquement, sur la même chaîne, la même radio.
RMC, les grandes gueules.
Mise au point, s'il vous plaît, de Sophie de Menton à la demande de Force Ouvrière maintenant dans les grandes gueules.
Je souhaite faire une rectification ensuite de propos que j'ai tenus lors de l'émission du 15 novembre 2007 sur cette antenne. À l'occasion d'un sujet consacré à l'affaire dite de l'UIMM, un débat très vif s'est engagé sur la reconnaissance de ces faits par Laurence Parisot, avant qu'elle ne devienne présidente du MEDEF. Prise à partie violemment par un intervenant, qui considérait qu'en ma qualité de présidente d'éthique, j'appartenais à une bande organisée, SIC, j'ai rappelé qu'à l'époque, si les rumeurs de financement des syndicats étaient de notoriété publique, nous ignorions le système. Dans le feu de l'action, en réponse aux propos excessifs qui me mettaient en cause, j'ai indiqué avoir ainsi eu connaissance que le siège de FO avait été payé par le patronat. Je reconnais que mes propos étaient sans fondement et je regrette de les avoir prononcés.
Mise au point terminée, Sophie de Menton, en direct dans les grandes
gueules. Elle a dit, non, je me suis trompé, je m'excuse, c'est sans fondement. Je me suis laissé emporter dans le feu des débats avec Gérard Filoche, mais c'est sans fondement, c'est une erreur totale. Alors c'est tout à fait, je dirais, éclaircissant sur la façon dont, en fait, l'UMM et le MEDEF ont jeté du venin contre les syndicats. Hein, ça consistait à dire, c'est pas nous, c'est pour les aider, on leur donne de l'argent, c'est des pauvres petits syndicats, et c'est assez perfide, c'est même assez dégoûtant. Si vous me permettez l'expression, d'avoir essayé de repousser la corruption sur les syndicats alors qu'elle était entièrement et uniquement patronale.
Je ne sais pas si elle a bien compris que Sophie de Menton, qui intervient régulièrement dans cette émission, Les Grandes Gueules, sur RMC, est la passionnariat du mouvement libéral éthique, ETHIC, qui veut dire entreprise de taille humaine indépendante et de croissance. On l'entend très fréquemment dans cette émission de la mi-journée sur RMC. Alors voilà, on éclaire un petit peu déjà les financements des syndicats suggérés dans cette affaire. Mais il faut rappeler qu'il y a effectivement financement des syndicats par les entreprises, mais c'est tout à fait légal, ça se fait dans la légalité, c'est-à-dire que les entreprises financent les syndicats, l'existence et le fonctionnement de ces syndicats. Alors, de là à trouver que c'est tout à fait normal et tout à fait logique et que ça assure toute l'indépendance des syndicats, c'est autre chose, c'est un vaste dossier. Éclairage de Gérard Filoche.
Vous avez des exemples, vous, alors, qui montreraient comment une organisation patronale peut donner de l'argent à des organisations syndicales ?
Oui, alors, mais bien sûr, ça se fait. Alors, c'est ce qui va nous permettre d'aborder une question qui est celle du financement des syndicats. Parce que ça se fait dans beaucoup de grandes entreprises. Par exemple, vous allez au dépôt des conventions collectives et des accords collectifs qui sont officiellement, vous allez à KGMAP, à la direction départementale du travail, vous regardez, puisqu'on peut les consulter, vous regardez, bah vous trouverez Aventis Sanofi, par exemple, verse 600 000 euros pour l'année 2006 ou 2007 aux 5 syndicats représentatifs de la maison. Vous verrez d'un côté les signatures des 5 syndicats qui signent l'accord. Vous verrez de l'autre côté la signature des employeurs, avec d'ailleurs François Sarkozy parmi les signataires. Et c'est un versement de 600 000 euros. Là, ce n'est pas une caisse noire. C'est pas du trafic d'argent liquide. C'est purement légal. C'est-à-dire que, bon, il paraît que France Télécom, la somme est de 2,4 millions pour les organisations syndicales, et toutes les grandes entreprises versent de l'argent comme ça aux syndicats pour faciliter, dit-on, leur fonctionnement. Je répète, c'est légal. Mais, moi, ça, et à tout le monde, ça devrait poser un problème. Pas le fait qu'il y ait de l'argent versé aux syndicats. Il doit y en avoir. Il doit y en avoir pour leur permanent, ils en ont pas. Il doit y en avoir pour leur fonctionnement. Ils ont des centaines de commissions animées, paritaires ou pas paritaires, des institutions auxquelles ils participent, etc. Il est très important que les syndicats aient un financement. Mais je suis pour un financement public. C'est un système qui ne doit pas être trop difficile à élaborer. Et du coup, ça faciliterait les choses. Parce que ce n'est pas la même chose qu'un syndicaliste reçoive directement de l'argent en signant un accord avec son propre patron. Ça fait pas le même climat, quoi. Hein, je te donne 2,4 millions, je te donne 600 000 euros, etc. Bon, ça, on dépend du patron. Alors après, si pour faire grève contre lui et défendre les revendications de tous les salariés, le climat n'est plus le même. C'est pas trop compliqué à comprendre, quoi. Et moi, je suis pour l'indépendance des syndicats.
Alors, le point de vue de la CGT maintenant sur cette affaire. Déclaration.
Alors Michel Donnédu, vous êtes secrétaire confédéral de la CGT en charge du dossier sur la réforme de la représentativité. Oui. Alors on vous appelle pour voir un peu comment on réagit à la CGT aux accusations qui ont été faites, accusations graves, d'avoir perçu, comme tous les syndicats, de l'argent noir, de l'argent sale, un financement obscur du patronat.
Vous savez, nous avons été scandalisés par cette affaire de la caisse anti-grève et de la caisse noire de l'UIMM à deux titres. D'abord parce que c'est l'existence même de cette caisse anti-grève, et puis ensuite parce que on a accusé donc les syndicats d'en avoir profité. Alors, je voudrais dire qu'une caisse anti-grève, c'est fait, comme son nom l'indique, beaucoup plus pour combattre le syndicalisme et les salariés en général que pour les aider. Et la caisse noire donc qui a été découverte et qui est financée à partir de cette caisse anti-grève à laquelle cotisent des entreprises, elle a évidemment beaucoup plus, dans la même logique, elle n'a pas été faite pour aider le syndicalisme. En tout cas, la CGT, qui est réputée dans ce pays pour animer des revendications et aller jusqu'à la grève, elle n'a certainement pas profité de cet argent sale. Donc nous avons revendiqué qu'il y ait une très grande transparence en la matière. Alors on parle beaucoup aujourd'hui de mise en place de certification des comptes. Bon, c'est une chose, il faudra peut-être y aller, mais la certification des comptes ne pourra pas résoudre ce problème-là. Pourquoi ? Parce que par définition, une caisse noire, ce n'est pas dans les comptes. Donc, des entreprises ont vu leurs comptes certifiés pendant des décennies et des décennies sans que les commissaires aux comptes aient pu voir l'existence de cette caisse noire et de cette caisse anti-grève. Donc, ce que nous revendiquons, c'est que les entreprises soient dans l'obligation de faire publier à leur bilan social tout ce qu'elles accordent, tout ce qu'elles octroient, tant aux organisations syndicales de salariés qu'aux organisations patronales. Ainsi, il y aurait une grande transparence et je crois que nous croyons que ce scandale, la poursuite d'un scandale comme l'existence d'une caisse anti-grève ou d'une caisse noire, ne pourrait plus durer.
Est-ce que vous excluez la possibilité de débauchage individuel ? Là, on ne parlerait plus de financement syndical, comme on en entend beaucoup parler, mais de débauchage individuel de syndicalistes dans certaines entreprises ?
Ben écoutez, c'est peut-être, je ne sais pas si ces choses ont existé. En tout cas, de la CGT, on n'en connaît pas. Maintenant, si d'autres organisations syndicales témoignent de que ça existe, ça peut faire partie de manœuvres patronales. Mais en tout cas, la CGT, on ne connaît pas.
Bah, qui s'adresse, bande de voyous. Bon, voilà, des éléments d'appréciation. Voilà. Un autre témoignage, celui de Sud Mohamed Kenich, délégué Sud de PSA Aulnay-sous-Bois, sur le financement des syndicats.
Alors, Sud a été créé en 2005, et en 2005, il y a eu des grèves, non ?
La première grève, donc, juste après donc, les élections, donc, le 2 mars.
Ça faisait combien de temps qu'il n'y avait pas eu de grève avant ?
22 ans. Depuis 1984, il n'y a pas eu de grève, donc là, c'est 22 ans après.
Ça veut dire que vous arrivez, vous créez des problèmes, quoi. Que tout allait bien à Aulnay pendant près de 20 ans, vous arrivez, vous créez des problèmes, c'est ça ?
Je pense qu'il y a eu quand même... La paix sociale a été achetée quelque part par la direction via l'UEMM. Je pense qu'on ne peut pas dans une usine comme ça, c'est une cocotte minute donc, qui bouillonne, on ne peut pas avoir la paix sociale pendant 20 ans. Donc il y a eu quand même, je pense, de l'argent de verser pour maintenir la paix sociale. C'est très difficile d'avoir les preuves, sauf que je connais l'UMM. Je sais très bien que c'est une organisation patronale qui fait tout pour essayer de maintenir la paix sociale dans les entreprises.
Pourquoi vous souriez quand vous dites maintenir la paix sociale ?
Parce que je souris, parce que je pense que c'est leur travail. Leur travail, déjà, c'est de créer une caisse de grève, anti-grève, pour financer, je pense, les syndicats qui veulent faire la grève. Et puis,
qui veulent pas faire la grève.
Non, qui veulent pas, plutôt, qui veulent pas faire la grève, pour aussi verser peut-être des salaires ou de l'argent pour compenser les pertes dues aux grèves.
Bon, on sent le secret de... Polichinelle. Des précisions, encore des précisions, avec Joseph Pinard, qui est à la fois historien et qui fut député entre 1981 et 1986.
Ce qui a pu se produire, ce que me disaient ces ingénieurs, hein, c'est qu'il y a pu y avoir des cas où des militants, individuellement, ont été achetés. Hein. Ça, par exemple, à Peugeot-Mulhouse, un ingénieur de la section CFDT de Peugeot m'a dit « Bon, bah, on s'est aperçu que... Bon. »
On s'est aperçu que quoi ? Que des gens percevaient des
enveloppes ? Ah ben, on s'est aperçu qu'il y avait des militants qui avaient été achetés. Hein ? Oui. Que là... faut voir ce qui s'est passé. Après 68, à Sochaux, par exemple, il y a eu un recours à de véritables milices pour briser les grèves. Hein. Bon, alors, dans ce contexte-là, il y a eu des tentatives pour acheter des militants pour retourner des militants syndicalistes. Eh ben, ça c'est du débauchage individuel. Mais quant à financer des organisations, s'agissant de la CGT et de la CFDT, ça paraît enfin absolument ubuesque.
Thank you.
L'enquête doit déterminer ce qui se cache derrière la fameuse fluidification des relations sociales.
Mais la première piste, c'est celle du financement des syndicats. Seuls quelques témoins acceptent de lever un coin du voile, comme Jean-Claude Duret, le 28 juillet 98. Ce délégué CFTC chez Thomson participe à une réunion au siège de l'UMM avec tous les syndicats. Le patronat souhaite alors revoir à la baisse la convention collective des cadres. Jean-Claude Duret n'est pas d'accord, il claque la porte quand, surprise.
Il y a un gars qui me tape sur l'épaule et puis il me dit « Est-ce que vous avez des besoins ?» Il voulait m'acheter. Alors le gars, il me dit « Bon, je vois qu'on peut pas s'entendre, mais calmement, hein ?» Le gars qui était déjà rompu à ce genre de choses, il me serre la main et me dit « On s'est connus, on ne se reverra plus jamais. » Et je l'ai plus revu après dans la délégation. Le système veut que, comme ça n'a pas marché, le gars s'éclipse. C'est voulu. Et le soir, on va dans une belle brasserie, mais alors, le repas, attention, hein. Elle me dit, oh là, mais c'est le patron qui paye, te casse pas la tête, tout est payé d'avance. Alors, le matin, il y avait une tentative de corruption, et puis le soir, on terminait avec un bouffant sur le compte du patron. C'est pas beau, ça?
Alors, un des rares, très très rares témoignages, vous avez reconnu, c'était un reportage de Benoît Colomba sur France Inter du 16 avril dernier. Voyons comment réagit la CFTC.
On nous a dit au moment de l'affaire UMM que cette caisse noire, la fameuse caisse noire de Denis Gauthier-Sauvagnac, avait servi à fluidifier. Et par fluidification, on avait été amené à comprendre, plus ou moins directement, qu'il y avait de l'argent qui passait des mains du patronat vers les mains du syndicat et plutôt sous la table que sur la table.
Alors, je peux vous dire qu'au niveau d'une confédération, c'est pas du tout le cas. Il y a, pour tous nos financements, on a des conventions qui sont passées avec nos bailleurs de fonds.
Et il y a de l'argent qui vient directement des directions d'entreprise aussi.
Alors, il y a effectivement certaines entreprises qui ont ce qu'on appelle un accord de droit syndical où les syndicats peuvent effectivement avoir des moyens de fonctionnement à l'intérieur de leur entreprise. On a effectivement des conventions collectives où il y a aussi du droit syndical qui est prévu. Alors, ce droit syndical est normalement fait pour faire fonctionner le dialogue social au sein de la branche.
Et tout ça, c'est prévu par la loi?
Tout ça, c'est prévu par la loi, tout à fait.
Et donc vous nous dites qu'au dehors de ce qui est prévu par la loi, la CFTC n'a pas touché d'argent de l'UMM.
Tout à fait, tout à fait. C'est exactement ce que je dis.
Alors, il n'y a une seule personne, en tout cas que nous sachions, nous, à là-bas, si j'y suis, qui a accepté de s'exprimer à ce sujet. C'est Jean-Claude Duret, qui nous parle d'une époque, qui nous parle d'il y a 10 ans, en 1998. Il était délégué CFTC. Il explique qu'à ce moment-là, on lui avait proposé un peu d'argent pour accepter certaines, en tout cas de faire le jeu du patronat dans certaines négociations. Est-ce que le financement ou la tentative de corruption de Jean-Claude Duret doit nous éclairer sur le fonctionnement profond du syndicalisme français?
Non, je pense pas. Je pense pas. Bon, je veux pas me prononcer sur Duret. Je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas ce qu'il a compris. Je sais pas si on lui a proposé. Mais en tout cas, moi, je peux vous dire que c'est pas le mode de financement des organisations syndicales. Quand il y a du financement qui vient des branches, qui vient des entreprises, ça passe par un accord d'entreprise. C'est au vu et au su de tout le monde. Il y a pas de ce genre de financement culte. Ça mène à rien, quoi.
L'enquête continue demain. Merci à tous. C'était un reportage de Renaud Lambert. Merci à Benoît Colomba, Daniel Fraboulet, Eric Decouty, Norbert Borderu. Merci également à Mohamed Kenich, Roger Gimnez, Joseph Pinard et Michel Offerlé. Et également à Gérard Filot. Je rappelle le titre de son bouquin sur ce sujet, Les caisses noires du patronat aux éditions Gabzevich. Et puis le livre de Daniel Fraboulet, quand les patrons s'organisent aux éditions Septentrion. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission Là-bas si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission. Vous pouvez également la réécouter sur là-bas.org, là-bas.org, où vous pouvez voir les photos, la suite du diaporama sur le voyage le long de la frontière en route pour Tijuana. À la technique aujourd'hui, Ronan Mahé et Eric Morin, Yann Chouka et Koyen Guyen ont réalisé cette émission assistée de Charlotte Perry, qui est en charge également du répondeur. Elle y attend vos messages au 01 56 40 37 37.